La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Il y a terrorisme et terrorisme. Il y a les vrais, avec une barbe et une kalachnikov, et les autres, ceux qu'on n'arrive pas à nommer. Il y a deux semaines, le 25 avril, un homme s'est rendu dans la mosquée de la Grand Combe et il a assassiné Aboubacar Cissé, un jeune homme de 22 ans, par plus de 50 coups de couteau. Devant sa victime agonisante, il a déclaré, je cite, « Je l'ai fait, ton Allah de merde ». Fin de citation. Il a d'abord fallu un peu de temps aux médias pour se rendre compte que l'assassin n'était pas un autre fidèle de la mosquée. Puis s'est posée la question, qui a tourné en boucle dans tous les médias et chez les politiques. Est-ce un acte islamophobe ou un acte raciste anti-musulman ? Je vous laisserai écouter les heures de débat stérile sur ce sujet si jamais vous vous ennuyez vraiment à ce point-là. En revanche, il y a un mot qu'on n'a quasiment pas entendu dans les médias, c'est celui de terrorisme. Pourtant, dès qu'un assassinat est commis par une personne d'origine maghrébine ou musulmane, ou juste avec un prénom pas trop de chez nous, ou alors, enfin bref, par un arabe quoi, alors là, tout le monde prononce tout de suite le mot qui fait peur, terroriste. Un arabe qui tue un blanc avec un couteau, c'est un terroriste. Un blanc qui tue un arabe avec un couteau, on ne sait pas trop. Alors c'est quoi au juste un terroriste ? Bien sûr, le terme suscite énormément de controverses inépuisables. Le terroriste des uns étant généralement le résistant des autres. Terroriste ou résistant, question de point de vue. Mais il y a bien des éléments structurants qui caractérisent l'acte terroriste. D'abord la violence, là je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Deuxième élément, les victimes sont des civils. Là aussi, pas de doute qu'Aboubacar Cissé était un civil qui faisait sa prière et n'avait absolument rien demandé à personne. Troisième élément, l'objectif. Le terroriste veut faire peur, intimider les masses, en montrant que personne n'est à l'abri. Pour ça, il cherche à médiatiser son action, comme par exemple en postant une vidéo sur les réseaux sociaux. Dernier élément, et non des moindres, l'objectif politique ou idéologique. Et c'est bien là tout le débat. Y a-t-il une idéologie derrière cet acte, ou est-ce juste un acte isolé, commis par un individu déséquilibré, comme on l'entend parfois ? Eh bien oui, évidemment qu'il y a une visée politique, cet assassinat. Son auteur fait allégeance à une pensée très construite, celle de l'idéologie raciste, celle du grand remplacement et du choc des civilisations, avec des guillemets bien sûr. C'est une idéologie de la haine des Noirs et des Arabes qui serait inférieure aux « Français de souche », entre guillemets aussi. Une idéologie de la lutte des races qui promeut la violence et, à son extrême, le meurtre. Et cette idéologie raciste, elle est évidemment très politique, puisque c'est celle des partis d'extrême droite, mais aussi des partis de l'extrême-centre actuellement au pouvoir, pour reprendre l'expression de l'historien Johan Chapoutot. Alors oui, les mots ont un sens. Appelons un terroriste, ne pas le faire, c'est dépolitiser ses actes en les faisant passer pour de simples faits divers. Ne pas utiliser les bons mots, c'est refuser de voir qu'entre le simple préjugé raciste et l'assassinat, il y a un continuum. De la violence raciste. C'est refuser de voir que le préjugé et l'assassinat sont l'émanation d'un seul et même système. Alors, utiliser les bons mots, c'est déjà un peu, un tout petit peu, lutter contre ce système. Ce soir, dans la matinale de 19h, nous parlerons de bandes dessinées féministes et queer avec Oti du festival Planchereuse. Nous accueillerons également Charlotte Reinhardt, pianiste et compositrice, qui nous racontera son travail musical d'inspiration jazz, mais pas seulement. Nous écouterons ensuite la chronique de Delila. Je crois que ça parlera de fumée blanche. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview et nous allons parler d'islamophobie.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Gesser, chercheur au
Bonsoir.
CNRS. Bonsoir,
oui,
Vincent Gesser.
Merci.
J'espère que je n'ai pas écorché votre nom.
Oui, non, Vincent Gesser, ben, on est dans un pays d'assimilation, hein, donc finalement,
très bien.
Tous nos noms se francisent.
Hein, exactement.
Voilà. Donc on pourrait dire Gesser dans un intermédiaire, Gesser dans une forme originelle, ou Gesser dans une forme de francisation. Et moi, je vis à Marseille, on dit Gesser.
Voilà, votre donc, forme voilà. sera la mienne. voilà. Vous êtes donc sociologue et politologue, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Avec vous, ce soir, nous allons revenir sur l'assassinat d'Aboubacar Cissé, dont je parlais tout à l'heure. Le jeune homme de 22 ans d'origine malienne venait de terminer son CAP menuiserie. Il a été assassiné le 25 avril dernier, alors qu'il faisait sa prière à la mosquée de la Grand Combe dans le Gard. Son assassin a revendiqué son acte en exprimant clairement son motif, la haine des musulmans. Pour en parler, je laisse la parole à Héloïse qui va mener cette interview. Bonsoir Héloïse.
Bonsoir Thomas. Bonsoir Vincent.
Bonsoir.
Merci Vincent Gesser d'être avec nous ce soir. Ensemble, nous allons parler de cet acte criminel et de l'islamophobie en France. Alors, le meurtre d'Aboubacar Cissé a marqué le pays de par sa barbarie, bien entendu, mais aussi par l'absence ou le retard de réaction de personnalités politiques et de certains médias. C'est le cas notamment de Bruno Retailleau, notre ministre de l'Intérieur et donc des cultes, qui a mis 48 heures à se rendre à Alès, donc même pas exactement sur le lieu du crime, ce qui lui a valu de nombreuses critiques, l'accusant de faire du deux poids deux mesures ou de compassion à géométrie variable. Comment est-ce que vous vous analysez ce délai de réaction de la part notamment du ministre de l'Intérieur?
Alors, effectivement, il y a eu un délai de réaction. Alors, qui est dû à... Je ne pense pas que ça soit quelque chose de complètement calculé, cynique, dire oui, bon, puisqu'il s'agit d'un crime à l'égard d'un musulman, je vais attendre un peu, je vais regarder ma montre et puis je réagirai plus tard. Je crois que c'est quelque chose de plus profond et de plus grave. Parce que plus profond, ça l'excuse un peu, si je puis dire, le ministre, et plus grave, ça ne l'excuse pas du tout. C'est finalement l'idée... Un meurtre dans une mosquée, ça doit être une affaire tribale, communautaire, un règlement de compte entre deux dealers. Vous voyez ? Donc on est aussi dans une représentation où on a une difficulté à considérer que les musulmans puissent être aussi des victimes. Victimes d'un acte meurtrier comme celui-là et raciste, mais aussi victimes du terrorisme. Parce qu'il faut savoir que dans les attentats, y compris par des terroristes qui réclament de l'islam, il y a aussi des musulmans qui meurent. Vous savez, par exemple, voilà. Bon, donc du coup, on peut être victime musulmane d'un acte djihadiste, par exemple. Voyez, et je dirais qu'à l'échelle mondiale, les premières victimes des actes terroristes djihadistes sont souvent des musulmans parce qu'ils se produisent dans des pays, entre guillemets, majorité musulmane. Pour répondre à votre question, ce qui est choquant, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'idée que tout de suite, meurtre, mosquée, musulman, donc dit, bon, une sorte de chicaïa, une sorte de règlement de compte tribal, peut-être un truc dû à la drogue, vous voyez. Donc, on n'arrive même pas à prendre au sérieux, à avoir, je dirais, une certaine solennité, et sinon, voire même une forme de respect. Et donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément que je veux préciser, avant peut-être de répondre encore à vos questions, je trouve que le ministre, depuis maintenant plus d'une semaine, a passé plus de temps à dire que c'était pas forcément un meurtre raciste qu'il a passé à dire « oui, on doit peut-être là marquer une pause, faire deuil ». C'est-à-dire que finalement, très vite, la machine à produire du fantasme est repartie à peine, je dirais, excusez-moi du terme, mais à peine le corps de M. Cissé était refroidi, le ministre repartait toujours dans ses discours, on va le dire, identitaires, alors qu'on les qualifie d'anti-musulmans, d'islamophobes, ou tout simplement de racistes, peu importe. Mais c'est le fait qu'on voit bien comment aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur, qui est en plus ministre des Cultes, qui a quand même un devoir... je dirais, de distance par rapport aux événements, qui a aussi un devoir, qui est aussi, en principe, protecteur de l'ensemble de la communauté nationale, quels que soient les individus, quelle que soit leur appartenance citoyenne, philosophique ou religieuse, se mettre à réamorcer, à remettre du carburant dans la machine identitaire, alors que Aboubacar Cissé était à peine enterré. Voyez, et ça, c'est quand même... Finalement, je vais le dire, oui, bien sûr, ce meurtre, il m'a choqué, comme beaucoup. D'ailleurs, je pense que beaucoup de Français étaient choqués. Et je pense que même des Français conservateurs de droite ont pu être choqués par ce meurtre. Ça nous a rappelé d'autres meurtres. Mais avec du recul, ce qui me choque encore plus, c'est l'indignité du deuil. C'est-à-dire qu'on n'a pas su faire deuil, on n'a pas su rendre hommage, on n'a pas su faire aussi union nationale, parce que quand on a un meurtre comme ça, excusez-moi, je vais employer une expression tridiévale. On ferme sa gueule, on fait une minute de silence, on va voir la famille, on ne va pas la voir trois jours après, on ne la convoque pas. Vous voyez, là aussi, la famille a été convoquée.
Oui.
Le ministre, les parents, vous voyez, ça aussi, ce geste, venez au ministère de l'Intérieur, je vous invite. Non, mais non, oui. C'est toi, ministre, qui dois te déplacer. Ce n'est pas à la famille de venir te voir à la place Beauvau, vous voyez.
Et est-ce que, c'est très clair, merci beaucoup, est-ce que pour vous, ça c'est symptomatique de la façon dont, généralement, les actes anti-musulmans ou islamophobes sont traités en France par les politiques?
Alors, c'est compliqué parce que, déjà, il faut préciser que le qualificatif d'acte, alors on va dire anti-musulmans, islamophobes, moi je vous le dis franchement, ça ne gêne pas qu'on parle d'anti-musulmans, islamophobes. c'est vrai que j'ai écrit La Nouvelle Islamophobie en 2003. C'était le,
on en reparlera.
On va dire le premier livre. Voilà, mais à la limite, je veux dire que des gens qui parlent d'anti-musulmans, et ce qui est important, et comme vous êtes, comme on est une radio universitaire, il faut le dire, ce qui est important, c'est ce qu'on décrit, c'est les faits qu'il y a derrière, c'est les logiques qu'il y a derrière. Bon, après, les qualificatifs, oui, effectivement, la façon de qualifier, de nommer les choses sont importantes, mais parfois, on peut avoir des mots différents pour désigner un même horizon de sens, vous voyez. Bon, en revanche, moi, ce que je trouve déjà grave, c'est que il y a beaucoup d'actes islamophobes, c'est vrai, mais il y a surtout une difficulté à admettre qu'ils puissent être des actes racistes. C'est ça le problème. Vous savez, le problème fondamental, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un peu une sous-évaluation en France des actes, entre guillemets, anti-musulmans ou, entre guillemets, islamophobes, parce que déjà, il y a un problème à les reconnaître en tant que tels, voyez. C'est-à-dire que le gros problème aujourd'hui de l'appréhension du racisme qui touche des Français ou des étrangers, mais aussi des Français supposés musulmans, parce que des gens peuvent être perçus comme musulmans alors qu'ils ne le sont pas, c'est déjà de reconnaître qu'ils sont victimes de racisme dans des actes de violence, que ce soit des actes de violence verbale ou des actes de violence physique. Donc, avant même de dire est-ce qu'il y a plus d'actes islamophobes aujourd'hui qu'hier, ou est-ce que c'est en progression, est-ce qu'il y a une augmentation, la vraie question qu'il faut se poser, c'est que est-ce qu'on est la société française et les acteurs de la société française, notamment les acteurs publics et les responsables politiques dans cette société, sont capables au moins de reconnaître les logiques racistes ou les logiques qui conduisent à ces actes. Et donc voilà, donc avant qu'on parle de problème de quantification, c'est le problème de conscientisation par rapport à la montée d'une forme de racisme, qualifions-le d'islamophobe, d'anti-musulman, mélangeant, c'est aussi des conjugaisons de racisme, il y a un mélange, parce qu'on peut rejeter un musulman, même français, alors qu'il est l'apparence d'un français, on peut rejeter à l'inverse quelqu'un qui a une apparence musulmane alors qu'il n'est pas musulman, on peut rejeter quelqu'un en tant qu'arabe alors qu'il est chrétien. Bon, on est quand même dans des conjugaisons de racisme très complexes, mais au moins les reconnaître en tant que tel, avoir une certaine conscience et surtout tenir un discours public à la hauteur. Et là, on voit qu'il y a une défaillance totale d'une partie des institutions publiques et des responsables politiques pour ne serait-ce que reconnaître, voyez, le caractère raciste de ce type d'acte.
En fait, ça donne l'impression que le débat n'est pas vraiment au bon endroit. C'est-à-dire qu'effectivement, Bruno Retailleau lui-même a passé de longues minutes sur les plateaux de télé à débattre de est-ce qu'on doit parler d'islamophobie ou pas. Lui refuse d'en parler. Oui. Manuel Valls également, l'un invoquant les frères musulmans, l'autre les mollahs iraniens. On sait bien que ces deux informations sont fausses complètement. Oui. Mais du coup, ça pousse à s'interroger quand même sur pourquoi est-ce que, typiquement, des ministres, des personnalités politiques passent autant de temps et autant d'énergie à s'insurger contre le mot même islamophobie, alors que ce contre quoi on devrait être en train de s'insurger, c'est
qu'on discute, les faits. Qu'un chercheur discute du mot islamophobie, moi je ne suis pas contre, si vous voulez. Bon, après, il y a des mots qui sont imposés dans l'histoire, qui, si vous voulez, désignent, ne sont pas tout à fait exacts en termes de terminologie, mais pourtant ont un sens historique que je ne conteste pas. Quand on parle d'antisémitisme, on comprend, parce qu'il y a eu l'affaire Dreyfus, et ce mot antisémitisme a une histoire. Si on veut aller au ce qui désigne les sémites, c'est plutôt des systèmes linguistiques. Donc, il aurait fallu dire, alors c'est Taguieff, pourtant Taguieff, je ne porte pas un gars dans mon cœur, mais il a pas tort. Quoi. Peut-être faudrait-il parler plutôt de judéophobie ou de. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais bon, il y a des mots qui se sont imposés, comme le mot antisémitisme, à juste titre, parce qu'il a une histoire. C'est l'affaire Dreyfus, c'est tout ce qui a été vécu, bien sûr, après dramatique dans l'histoire de France, et qui a abouti à cet antisémitisme destructeur, et qui a exterminé, etc. Donc, à la limite, voilà, il s'est imposé, on va pas le recontester. Bon, islamophobie, c'est encore un mot qui est assez ancien aussi, ou tout aussi ancien, mais qui a moins, on va dire, de densité, de profondeur dans la société française. Bon, donc, mais moi, ce qui est très très choquant, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire pourquoi tout de suite rentrer dans une bataille de mots, M-O-T-S, alors qu'il y a des mots M-E-X profonds dans la société française. Et je pense que cette polémique rhétorique, sémantique, est très révélatrice aussi de ce que j'appelle une hiérarchisation. Finalement, on considère que le problème numéro un en France, c'est le terrorisme commis par des musulmans. Et donc, que les musulmans qui se réclament comme victimes, c'est secondaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que, quelque part, c'est l'idée que ce sont les musulmans qui font des victimes, Et finalement, oui, ils peuvent de temps en temps être victimes. Mais le plus important, c'est les victimes qui font. Vous voyez ce que je veux dire. Bien Donc, on est dans une sorte de renversement des hiérarchies. Et c'est très inquiétant du point de vue, je dirais, de l'état des mentalités et d'une certaine morale publique. Mais pourquoi dénoncer le racisme anti-musulman ? Parce que la première chose qui nous préoccupe, c'est le terrorisme musulman précisément. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme ça que résonne un certain nombre d'éditorialistes, de politiques, c'est de considérer, oui, il peut y avoir du racisme anti-musulman, oui, ça existe, oui, mais quelque part, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est tous ces gens-là qui, par leur comportement ambivalent, sournois, secret, alimentent le terrorisme.
Vous c'est très clair.
Donc,
oui,
c'est une inversion de la hiérarchie des priorités.
Ouais, voilà, tout à fait. Je vous coupe parce qu'on va faire une petite pause musicale, mais on reprend cet échange passionnant juste après. Tout de suite, on écoute All Right de Issa Yasuke et Youssoufa.
Ils ont voulu nous faire, on a quand même marqué dans les playoffs. Ça finit bien, alright. Le mal accumulé, je le performe. Ils ont pas le cran pour être adversaire. C'est nous les hôtes. Tellement de larmes qu'on retient de verser. Ça finit bien, alright. Alright, alright. Pourvu que ça finisse bien, alright. Alright, alright, alright. C'est la vraie vie, pas HBO. Vida bizarre comme le frigo. On veut la paix, on veut freedom. Ils ont voulu toucher à nos points vitaux. J'ai la vision depuis les dents de lait. Y avait tant de loups. Je compte plus les fois où tout s'est envolé. Ces moutons aux dents de l'eau. I'm ready, you know. I'm ready, you know. I'm ready, you know. Alright. I'm ready, you know. I'm ready, you know. I'm ready, you know. Alright, alright, alright. On veut que ça finisse. On n'a pas dormi, night and day. J'ai tellement attendu, je suis al dente. Je rappe, je fais les mélos, j'ai alterné. À quel moment ils auraient pu me berner? Comment ça, ils ont tout terrain? Dans le son, je fais du tout terrain. Dans le noir, depuis full de moi, je compte bien faire tout briller autour de moi. I'm ready, you know. I'm ready, you know. I'm ready, you know. Alright.
De travail, bim bim, parler de bendo, de bédo, de bibi, parler de baby qui m'appelle à bibi, parler de parcours de chaque cours à Biggie, parler de biblique puisqu'on est égaux, parler du Christ car le Christ était négro, parler trop pressé, parler pour prêcher, parler sa mère car se taire est un péché, parler de Dieu parce que lui décolonie, dépasser les cadavres, les palabres, les drames, love dans les yeux jusqu'aux cieux, follow me, j'étais paranoïa comme un négro d'Alabama, maintenant j'existe, maintenant j'ai vista, maintenant j'ai drapeau, j'ai gamin, c'est quichta, riche, bitch, billionaire speech, molotov cocktail, molotov gospel, ah.
Ça finit bien.
C'était All Right de Issa Yasuke et Youssoufa.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Nous sommes toujours avec Vincent Gesser, chercheur au CNRS, sociologue et politologue. Et je vous laisse la parole à Héloïse pour la suite de l'interview.
Alors, rebonjour Vincent. Alors, on vous disait à l'instant, avant cette pause, pourquoi s'attacher au mot MOTS plutôt qu'au mot MAUX quand il s'agit d'islamophobie en France. Il y a un mal, on va dire, qui est pour le coup très, très concret. C'est le sentiment d'insécurité qui est croissant pour les personnes de confession musulmane qui vivent en France. Vous étiez il y a quelques jours l'invité de l'émission C'est ce soir. À cette occasion, vous disiez qu'il y aurait un avant et un après cet événement pour les musulmans en France. Donc un avant et un après de l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors les moments sont toujours révélateurs, hein, c'est-à-dire qu'ils ne créent rien de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils sont révélateurs de quelque chose qui va plus dans une société, dans un groupe social, dans une communauté. En tout cas, c'est vrai, et j'ai vu que l'extrême droite s'était excitée lorsque j'avais écrit cette phrase « il y aura un avant et un après ». C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des Français, des citoyens français et notamment des étudiants, puisque vous êtes une radio qui s'adressait aussi au monde universitaire, oui, qui commencent à avoir peur des réactions qui peuvent se produire chez d'autres concitoyens français. C'est-à-dire qu'il y a, comme j'ai dit, jusqu'à présent, les sociologues se sont surtout concentrés sur l'islamophobie ou le racisme anti-musulman, c'est-à-dire que d'une partie de la société française à l'égard d'autres concitoyens supposés musulmans. Mais aujourd'hui, effectivement, on constate qu'il y a des citoyens français qui vivent dans ce pays, qui sont nés dans ce pays, qui, pour certains, appartiennent même, comme je disais, aux classes moyennes et supérieures, et qui commencent à avoir peur, non pas de la France, parce que c'est quand même leur pays, mais de la société française ou de certaines réactions, et notamment cette banalisation du discours identitaire, cette obsession, cette focalisation sur les questions d'islam. À chaque semaine, il y a une nouvelle affaire, l'affaire du voile à l'université. Alors, on peut être pour ou contre le voile à l'université, ce n'est pas le problème, mais on a l'impression que ça revient tout le temps, et puis après, on va nous inventer la moustache à l'université, la barbe à l'université, et puis, vous voyez, chaque semaine, voilà. Et ça, je crois que ça, c'est vrai que c'est assez dur à dire, mais oui, certains musulmans commencent, français, à se sentir dans une situation d'insécurité, quelque part. Alors l'extrême droite, tu dis, oui, mais c'est eux qui tuent des gens, pourquoi ? C'est eux qui nous mettent en insécurité et tout ça. Mais non, moi je décris un phénomène sociologique qui a d'ailleurs été confirmé pas seulement par des sociologues, y compris par des psychologues qui reçoivent de plus en plus de patients dans leur cabinet, qui ont peur, qui vivent en état de peur, d'incompréhension, pourquoi cette société dans laquelle on vit, dans laquelle on travaille, cette société qu'on aime, ce pays dans lequel on veut voir grandir nos enfants, pourquoi quelque part une partie de cette société se retourne contre nous, ce sentiment d'être pas compris, ce sentiment d'être toujours visé, d'être toujours regardé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se généralise. Je ne suis pas là pour dire que c'est vrai ou c'est faux, mais en tout cas c'est un sentiment qui se répand chez de nombreux Français qui ne sont pas forcément pratiquants d'ailleurs, hein, mais qui sont perçus comme musulmans et qui sentent que leur identité devient de plus en plus illégitime, alors qu'ils sont voire étrangères, alors qu'ils sont totalement français.
Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a changé depuis que vous avez publié votre ouvrage « La nouvelle islamophobie » en 2003 ?
Alors, moi, je vais vous dire un truc très franc, et je suis content d'intervenir dans une radio comme la vôtre, c'est que quand j'ai publié « La nouvelle islamophobie », j'avais des tas de relations qui étaient de familles musulmanes, qui me disaient « mais t'as pas honte, ce mot islamophobie, ça fait l'enjeu des islamistes », je me rappelle du journaliste du Monde de l'époque, que je connaissais parce que j'avais beaucoup travaillé sur les élites françaises d'origine maghrébine qui étaient engagées en politique, les élus, et me disaient « ouais, t'es très bien sur ce sujet, les élus, c'était extraordinaire, travailler sur les élus du Parti Socialiste, du Rassemblement pour la République, qui était le parti de droite de l'époque, mais là, bon, ce sujet, c'est n'importe quoi ». Et ces gens-là, aujourd'hui, me disent « mais il faudrait que tu interviennes plus sur le terme d'islamophobie, C'est-à-dire que j'ai vu toute une partie, notamment des classes moyennes supérieures, de gens Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, qui même, quand je publie ce livre, étaient plutôt critiques sur l'idée qu'on pouvait parler d'islamophobie. Ils disent « non, mais non, mais il ne faut pas trop en faire, il ne faut pas cautionner ce terme parce qu'il peut faire le jeu d'islamiste ». Ces gens-là, aujourd'hui, eux-mêmes se réapproprient de ce terme pour dire « mais oui, il y a de l'islamophobie ». Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi-même, d'une certaine façon, je constate, et j'ai été dépassé, si je puis dire, par des gens qui pouvaient me critiquer, peut-être pour des bonnes raisons, des fois, hein, mais qui aujourd'hui se réapproprient ce terme, et de manière, je dirais, beaucoup plus récurrente, beaucoup plus forte que j'ai pu le faire dans 2003. Vous voyez, donc pour vous dire l'évolution, c'est-à-dire que des gens sont récupérés ce terme, non pas parce qu'ils ont dit c'est un terme pertinent, mais parce qu'ils ont aussi aujourd'hui le sentiment d'être mal vus parce que musulmans, alors qu'ils sont par ailleurs français.
Et dans les choses qui ont pu évoluer depuis 2003, est-ce qu'on a aujourd'hui des leviers qu'on n'avait pas à l'époque pour lutter justement contre ces discriminations islamophobes en France, ou est-ce que, où en est la lutte contre l'islamophobie ?
Je dirais que si je prends le champ universitaire, par exemple, je trouve que ça a plutôt progressé. C'est-à-dire que le champ universitaire, il est traversé par tous les courants politiques, philosophiques et tout. Bon, malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience que quelque chose ne va pas. Et notamment chez les étudiants. Bon, peut-être que le contexte international aide aussi à ça, mais voilà. Dans la société française, ça devient de plus en plus dur. Ça frappe de plus en plus dur. Par cette récurrence des discours quotidiens à la télévision, il y a même aujourd'hui des chaînes d'extrême droite. Qui pensait ? Moi, je suis né en 68, j'aurais jamais pensé de ma vie voir une chaîne d'extrême droite à la télévision française. Vous voyez, pour moi, c'est je veux dire, une chaîne d'extrême droite. Il y en a une, voire deux, voire trois. Vous voyez, donc ça, c'est des choses nouvelles. Alors, pour les moyens de défense, il y a les solidarités ordinaires, sociales. Dans le milieu étudiant, par exemple, c'est ça. Je trouve que le milieu étudiant réagit plutôt bien. Parce qu'il y a quand même des solidarités. Tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas la religion, mais qui ne vont pas pour autant rejeter les musulmans. Ils vont dire, moi, le religieux, ce n'est pas mon truc, le voile, ce n'est pas mon truc. Bon, ça se passe quand même plutôt bien, si vous voulez. Mais en revanche, il y a quand même aujourd'hui une volonté, et je cite mon collègue à Wessenigère de Sciences Po Lyon, il y a une sorte de république du soupçon qui fait qu'aujourd'hui, les organisations qui engagent un combat contre le racisme anti-musulman ou l'islamophobie, sont elles-mêmes victimes de répression et de criminalisation. Alors, bien sûr, on ne va pas parler du CCIF, du collectif contre l'islamophobie, mais même la Ligue des droits de l'homme, qui est pourtant la Ligue de Dreyfus, vous voyez, quand elle a osé rejoindre une manifestation contre l'islamophobie, elle a été menacée directement par des pouvoirs publics ou une partie des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'à l'époque, et là il y a une évolution très très inquiétante, c'est que les ministres de la République, y compris les plus à droite, les plus réactionnaires que j'ai connus entre 2000 ou même à la 93 et 2020, ils hésitaient. Il y avait des institutions sacrées. On ne touchait pas à la Ligue des droits de l'homme, par exemple. On ne touchait pas au MRAP. On ne touchait pas à des grandes organisations antiracistes parce qu'elles étaient le produit de cette histoire de la lutte contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, le gouvernement n'hésite pas à les traîner dans la boue, vous voyez. Et c'est là, oui, il y a des gens qui se défendent, oui, il y a des organisations comme la Ligue des droits de l'homme qui n'aimait pas le mot islamophobie, mais qui finalement a fini par l'épouser. Mais la conséquence, c'est qu'elle se fait aujourd'hui criminaliser, voire même, on dit qu'elle est infiltrée par des arabo-musulmans, la Ligue de Dreyfus, vous voyez. Donc, oui, il y a quand même des poches de résistance, de combat, de prise de conscience, des formes de solidarité, mais il y a aussi, malheureusement, une société française où les logiques identitaires avancent de plus en plus, et une extrême droite qui est totalement banalisée dans les pratiques, dans les idées, dans les médias, et voilà. Donc du coup, oui, il y a des associations qui ont progressé, oui, il y a des moyens de lutte qui ont progressé, mais il y a aussi un certain autisme, voire même une complicité de certains secteurs de la société française avec ce type de racisme anti-musulman, islamophobe ou autre, parce qu'il n'y a pas que ces racismes, bien sûr.
Merci beaucoup Vincent Gesser. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là, car le temps file et on aimerait poursuivre cet échange bien plus longtemps avec vous. Merci beaucoup pour votre franc-parler, même si le constat n'est pas réjouissant. Ça fait vraiment du bien de l'entendre. C'est déjà le début d'une lutte. Merci Vincent Gesser. Et merci Léonore pour l'interview. Tout de suite, on passe au Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Salut Thomas, bonsoir à tous. Dans l'actu de ce mercredi 7 mai, la France commémorera demain 8 mai le 80e anniversaire de la victoire de 1945. Une cérémonie officielle se tiendra sur la place de l'Étoile à Paris, présidée par le président Emmanuel Macron. À cette occasion, un programme spécial est prévu pour cette journée, rendant hommage à la capitulation de l'Allemagne nazie. De nombreuses cérémonies commémoratives auront lieu à travers le pays pour marquer cet événement. Le chef de l'État a reçu ce mercredi le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. Les deux hommes ont annoncé à l'issue de cette rencontre la mise en place d'un conseil de défense et de sécurité franco-allemand. Également abordé la question de la dissuasion nucléaire sur le continent européen. Le conclave s'est ouvert aujourd'hui au Vatican. Les 1,4 milliard de fidèles catholiques du monde entier attendront avec impatience la décision des 133 cardinaux réunis pour élire le successeur du pape François. Football, le Paris Saint-Germain est à une marche de la finale de la Ligue des Champions, mais avant cela, les Parisiens devront éliminer les Anglais d'Arsenal lors de la demi-finale retour qui se déroulera ce soir au Parc des Princes. Le vainqueur de cette rencontre affrontera pour le titre suprême les Italiens de l'Inter Milan, vainqueur du FC Barcelone. Enfin, les sorties ciné de ce mercredi, Leïla et les loups du réalisateur libanais Henry Srour, à l'affiche également de nombreuses comédies telles comme De mauvaise foi de Pascal Demolon et Philippe Duquesne, Anges et compagnie de Vladimir Rodionov avec Élodie Fontan et Romain Lancry, et enfin Les musiciens de Grégory Magne avec Valérie Donzelli. Il est 19h30 passé, vous retrouvez la suite de votre matinale avec Thomas et toute son équipe. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
Merci Thierry pour ce flash info et merci à Héloïse pour l'interview et non pas Éléonore. Désolée d'avoir écorché ton prénom. Tout de suite, on écoute Bounce de Zephyr. C'était Bounce de Zephyr. Et tout de suite, c'est l'heure du Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Reynard par téléphone. Bonsoir Charlotte Reynard.
Bonsoir.
Vous êtes pianiste, compositrice et productrice. Votre album Fable est sorti fin 2024 chez Naïve Records. Vous puisez vos inspirations aussi bien dans la musique classique française que dans la poésie islandaise ou encore dans le chant polonais et bien sûr le jazz. Le 19 mai prochain, vous allez jouer au Théâtre de l'Alliance Française dans le cadre du Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés. Vous allez nous raconter votre travail et pour ça, je laisse la parole à Hugo qui va mener cet échange. Bonsoir Hugo.
Bonsoir, bonsoir Charlotte Reynard, comment allez-vous ?
Bonsoir Hugo, ça va très bien, merci beaucoup.
Ça va, alors vous êtes contente de participer à ce festival ?
Ravie. J'ai un peu la pression parce que c'est la clôture, donc... mais je suis ravie.
Est-ce que c'est la première fois que vous y participez ?
Oui, c'est la première fois et ça sera la première fois aussi que je me produirai en piano solo. Normalement, je joue avec deux musiciens, avec Franck Agulon à la batterie et Juliette Serrado au violoncelle. Et voilà, on est à trois sur scène, parfois on est à deux. Et là, c'est la première fois que je serai en piano solo. Donc, il a fallu un petit peu réarranger aussi les morceaux pour que ça sonne en solo.
C'est quoi la différence justement d'être au piano solo au niveau des arrangements ?
C'est pas du tout la même couleur. En fait, la batterie apporte justement la pulsation, le côté peut-être plus moderne jazz. Ça colore vraiment très très différemment et tout de suite au piano, il y a l'aspect néoclassique classique. Donc il faut arriver à transformer un petit peu l'esthétique. Mais c'est vraiment un autre travail. Enfin, c'est quand même mes morceaux. Hein, y a pas de... on les reconnaît bien. Et voilà, mes musiciens sont vraiment là comme des coloristes. Mais c'est vrai qu'il y a des morceaux où sans eux, je pense que c'est compliqué de les retranscrire seul au piano. Il y a vraiment une rythmique, il y a une progression, il y a des crescendo qu'ils apportent.
C'est le 19 mai au Théâtre de l'Alliance Française. Ce festival a lieu tous les ans depuis 2001 à Saint-Germain. Est-ce que c'est un quartier qui vous est familier ? C'est quand même un quartier emblématique pour le jazz.
Oui, j'aime beaucoup ce quartier, évidemment. Oui, j'adore Paris, mais c'est vrai que Saint-Germain-des-Prés, c'est foisonnant artistiquement et par l'histoire, évidemment. Oui.
Mais pourquoi ce quartier, justement, il est imprégné de jazz comme ça ?
Écoutez, moi, il y a beaucoup de clubs, il y a les cafés qui ont été fréquentés par des artistes, par des écrivains. C'était des lieux de rencontre. Ma musique est vraiment à la frontière, on va dire, entre le classique et le jazz. C'est pas une esthétique jazz, hein, pur jazz. Il y a vraiment une frontière entre le classique et le jazz.
C'est ça, oui. Et vous avez justement un nouveau single qui sort le 14 mai, c'est Tale of Nothing. Quelle couleur il va avoir, ce titre ?
Alors, justement, ce titre-là, c'est du piano. Il y a une superposition de piano. C'est un morceau... qui est, comment dire, c'est un morceau, on va dire, avec une espèce de boucle qui est un peu envoûtante. Quand je compose, je me mets au piano, ça démarre souvent comme ça, par une espèce de boucle un peu hypnotique. Et quand j'aime, je la joue, je la rejoue. Et du coup, il y a quelque chose, il y a une densité qui se fait. Il y a un mystère, on ne comprend pas pourquoi d'un seul coup, quatre notes peuvent emporter comme ça. Et là, j'étais seule au piano et j'ai superposé un petit peu plusieurs pianos et ça amène une tension. J'ai aussi apporté des pulsations un petit peu sombres. Et voilà, donc il y a un motif et puis après ça se transforme en valse, on retrouve un peu le côté classique. Voilà, mais c'est un peu, je parle souvent de classique et de jazz, mais c'est aussi cinématographique. J'aime bien qu'on puisse partir dans quelque chose de contemplatif ou dans un film imaginaire. Ça, pour moi, ça a beaucoup d'importance.
Oui, parce que vous avez des clips qui sont aussi assez cinématographiques. J'en regardais un tout à l'heure avec un cheval, ouais, si je ne me trompe pas.
Oui, tout à fait, oui. Oui.
Vous êtes né justement d'une mère gitane et d'un père anglais. Est-ce que cette alliance, elle apporte à votre musique quelque chose d'unique, de particulier ? Ou alors ça n'a aucun rapport et c'est vraiment vous ?
Je sais pas. Je suis née dans cet univers un petit peu sauvage. Mon père est anglais, mais il était très très artiste dans l'âme. Après, j'ai été élevée par un beau-père guitariste de jazz. Peut-être, oui, effectivement, il n'y a pas trop de frontières. Je dirais peut-être dans ma musique, c'est pareil. J'aime pas trop les frontières, les étiquettes. J'aime bien dire que je fais de la musique tout simplement, sans préciser ou classique ou jazz. Et pareil, peut-être pour mes origines, effectivement, il y a une sorte de, on va dire, de melting pot, de plein d'influences. Effectivement, j'ai écouté beaucoup de pop anglaise, beaucoup de musique classique. Donc oui, je pense effectivement que ça nourrit effectivement, oui.
Oui, parce que le piano, ça a l'avantage de vraiment pas avoir de frontières et de toucher un peu tout le monde dans le public. En tout cas, on peut rassembler plein de gens et on peut à la fois interpréter à sa façon cet instrument et la musique qui l'envoie au final.
Oui, le piano, c'est vraiment un instrument complet. C'est un instrument orchestral. C'est, pour moi, c'est vraiment l'instrument complet. Enfin, c'est mon instrument. C'est naturel pour moi. Je pense qu'avec le piano, on peut vraiment, comme avec d'autres, peut-être pas avec tous les instruments évidemment, mais on peut toucher un peu tous les styles.
Durant ce festival, il y a également des conférences. Il y a la conférence African Rhapsody. Il y a aussi un objectif de faire vivre la place des femmes dans le jazz. Il y a aussi agir pour l'éducation artistique et culturelle. Est-ce que c'est des causes qui vous parlent ? Est-ce que faire sa place en tant que femme dans le piano, dans le classique, c'est aussi une chose compliquée au début ?
Écoutez, non, je ne sais pas. Moi, je trouve ça très 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 bien, effectivement. J'ai eu des expériences de mon premier enregistrement où j'étais plus jeune, où effectivement j'apprivoisais pas les codes de studio d'enregistrement, et c'était effectivement, il y avait une dynamique qui était moins féminine, on va dire, et effectivement je devais vraiment m'imposer pour dire mais c'est ma musique, j'entends les choses comme ça, et c'était un petit peu compliqué. Donc oui c'est très très bien. Après j'aime bien qu'il y ait un mélange et que ça soit pas exclusif non plus, mais voilà.
Est-ce que en étant dans un festival de jazz, est-ce que vous faites des bœufs souvent, est-ce que vous vous rendez avec des musiciens et vous improvisez, est-ce que ça vous arrive encore de faire ça?
Non, parce que moi je n'improvise pas. En fait, j'improvise au moment où je compose. Ça démarre comme ça. On tâtonne un petit peu le piano, ou alors d'un seul coup, ça peut venir. J'entends des choses dans ma tête et je vais les faire au piano. Donc il y a une part d'improvisation. Ça part d'une improvisation. Après, je vous avoue que je suis pas du tout une improvisatrice jazz. Et c'est un peu une frustration, mais c'est peut-être mon parcours classique qui m'a un petit peu verrouillée et enfermée, qui m'a pas laissée aussi. Je me suis pas permise non plus d'aller par là, mais peut-être parce que je me trouvais vraiment nulle, donc je suis restée dans mon parcours classique et dans mon improvisation personnelle pour composer après.
Eh bien, cela rend très bien. Moi, je trouve pas que vous êtes nul. En tout cas, votre travail est assez incroyable. Vous êtes la nièce de Django Reinhardt et vous serez le 19 mai à 19h au Théâtre de l'Alliance Française. Est-ce qu'il reste des places ?
Je ne sais pas.
Allez voir, on demande aux auditeurs d'aller vérifier. En tout cas, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup.
Merci Charlotte Reinhardt, merci Hugo pour cette interview. Votre prochain single Tales of Nothing sort la semaine prochaine, le 14 mai, Charlotte Reinhardt. Et tout de suite, nous allons découvrir un autre de vos morceaux au titre très visuel. Il s'agit de Soleil Filament.
Thank you.
C'était Soleil filament de Charlotte Reinhardt. Et tout de suite, c'est l'heure du deuxième Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Ce soir, dans le Zoom, j'ai le plaisir de recevoir Ottilie et Ludine, organisatrices du festival Plancheuse. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Alors, Plancheuse, d'ailleurs, est-ce que vous préférez que je dise Plancheuse ou plancheuse?
Tu peux dire les deux, mais Plancheuse, c'est bien.
Allez, Plancheuse. C'est un festival de bande dessinée et d'art visuel, féministe, queer et militant, qui se tiendra les 17 et 18 mai à Césure, un tiers-lieu situé dans le 5e arrondissement de Paris, dans l'ancien campus Sanzier de l'université Sorbonne Nouvelle. Alors, qu'est-ce qui fait pour vous... Je laisse celle de vous deux qui préfère répondre. Qu'est-ce qui fait pour vous la force de la bande dessinée pour porter la voix des luttes féministes et queer, notamment par rapport à d'autres médiums comme le livre écrit, le podcast ou le cinéma ?
Waouh ! Je pense que la force de la bande dessinée dans les luttes pour les luttes féministes, mais pour les luttes sociales de manière générale, c'est que c'est un médium avec du texte et des images. Donc c'est plus accessible peut-être. Et surtout, c'est assez populaire dans le sens où tout le monde aime bien la BD ou les romans graphiques, si on est un petit peu plus poche. Mais oui, je pense que tout le monde aime bien la BD. C'est peut-être plus facile à ouvrir qu'un essai ou ce genre de choses, alors que ça peut porter tout autant de messages.
Et c'est quoi ton rapport à toi avec la BD ?
Alors moi, j'en fais des BD. Moi, j'en fais sur Instagram pour le moment. C'est Ludynamite. Ludynamite, je fais ma promo quand même un peu. Et du coup, pour le moment, j'en fais sur Instagram, mais j'aimerais bien en faire des vrais avec du papier, tout ça un jour. Donc voilà, mon rapport, un rapport de bébé autrice, on va dire.
Et tu les décrirais comment, tes BD ? Elles parlent de quoi ?
Mes BD, alors je décrirais avec comme ayant beaucoup de textes et peu de dessins pour le moment, parce que elles parlent de sujets politiques, souvent en réaction à l'actualité. C'est des BD que je fais assez vite, donc j'aimerais prendre plus de temps et les travailler plus. Mais elles parlent de plein de choses. Récemment, j'en ai fait une sur la situation dramatique du logement en France. Voilà, c'est la dernière que j'ai pu faire en organisant ce festival qui nous prend tout notre temps.
Et toi, Ottilie, est-ce que tu as un rapport personnel avec la BD ou pas forcément ?
Moi, je dirais que mon rapport personnel avec la BD, c'est surtout Ludine, à vrai dire. Pour revenir un peu sur la jeunesse de Plancheuse, c'est Ludine qui fait de la BD, qui est venue me voir en me montrant le scandale qui était l'invitation de Bastien Vivès en 2023 au Festival d'Angoulême.
Est-ce que tu peux nous en dire un mot pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant ?
Bastien Vivès est un auteur de bande dessinée qui dessine du coup des histoires à caractère pédopornographique, chose illégale en France, et il n'est pas du tout sanctionné. Il a été même mis à l'honneur en 2023 au Festival international de bande dessinée d'Angoulême. Et du coup, Ludine est venue me voir à ce moment-là, et on s'est dit il faut qu'on organise quelque chose ensemble pour honorer les artistes qui ne le sont pas habituellement. Et voilà, mais j'apprécie. Moi, les images, de façon générale, je suis en études de cinéma. Donc, la bande dessinée, l'animation, j'aime bien globalement raconter des histoires de façon documentaire ou fictive.
Et c'était quoi ton envie ou ton émotion au moment de la création de ce festival ? Enfin, tu l'as déjà un peu évoqué, mais...
Franchement, on ne savait pas du tout dans quoi on s'embarquait. On a fait ça en 3 semaines parce que... Très rapidement.
La première édition, oui.
En 3 semaines, du coup, en 2023. Et du coup, on a vu qu'il y avait un public qui était intéressé, donc on s'est...
Dit qu'on allait continuer.
Voilà.
Donc là, c'est la 3e édition ?
Mmh.
Super. Et Ludine, c'est un festival de BD, mais aussi d'art visuel. Donc à part la BD, quels sont les autres arts visuels qui seront à l'honneur dans votre festival ?
Alors, il va y en avoir plein. Donc cette année, on a un peu changé parce que nous, comme Oti est en études de cinéma, on s'est dit que ce serait chouette d'intégrer aussi les sujets d'Oti dans cette organisation. Puisque donc cette année, on est deux. On était 4 la première année, 3 la deuxième. Cette année, on est deux. Une équipe solide. Et du coup, la colonne vertébrale un peu de la programmation, c'est que c'est nous qui la faisons. Donc c'était important qu'on intègre aussi le cinéma. Donc il va y avoir des courts-métrages et un long-métrage. peut-être on pourra dire le nom après. Il y aura une photo.
Tu peux dire tout de suite. Hein,
si dire tout de suite. Moi, je vais laisser Othilde faire alors.
En allez. Exclusivité. Alors.
Alors, attends, on laisse durer le suspense. Alors, vas-y, okay, je te laisse okay, poursuivre.
Voilà, restez jusqu'à la fin. Et donc, oui, photo, film, donc vidéo. Il va y avoir.
Exposition.
Exposition.
Ouais, donc il y aura il y aura deux expositions, une exposition organisée par Forme des Luttes, qui est un collectif de mobilisation graphique, donc de très belles affiches, et également une exposition qui s'appellera Gwyn des Villes, Gwyn des Champs, qui revient sur une exposition qui a été faite à la galerie Chmorévaz, un peu remanipulée, entre guillemets, qui parle des archives et photographies de communautés lesbiennes en Oregon des années 70. Voilà, et puis du coup, dans les projections, il y aura une session de projection de court-métrage queer et le fameux long-métrage qui sera du coup Les Reines du Drame d'Alexis Langlois
en présence d'Alexis Langlois.
Trop bien.
Voilà, pour clôturer le festival.
En beauté.
Et j'ai vu aussi qu'il y aura des ateliers créatifs et une fresque participative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot ?
Oui, alors il y aura deux ateliers créatifs. Il y aura celui de Justine Thévenin, dit Logis, qui sera un atelier créatif...
sur les rêves.
Voilà, sur les rêves. Et il y aura un autre atelier qui fera suite, qui sera à la suite d'une table ronde, qui sera menée par les deux mêmes personnes, qui sont donc Camélia Blando et Maya Neal, qui sont deux autrices de BD, et qui... Donc l'atelier sera un peu la mise en pratique de ce dont elles auront parlé dans la table ronde avant ça. Et c'est un peu donc, de leur position d'autrice, donc, qui sont jeunes, qui sont des femmes dans un monde de la BD qui est encore très très sclérosé par le sexisme et toutes les discriminations finalement. Enfin, vraiment, il est temps de bouger. Et du coup, comment dessiner, raconter des histoires en s'éloignant un peu des idéaux de la BD franco-belge et en parlant de leur position d'autrice, essayer de donner envie aux gens de faire de la BD et l'enseigner de façon moins figée et plus, plus souple, quoi, plus sympa.
Et l'atelier sur les rêves, alors, c'est quoi ?
Alors, Justine Thévenin, on lui a vraiment fait confiance parce qu'en fait, Yael vient depuis la première édition et on sait que Yael aime bien faire des ateliers et il me semble que ça va être quelque chose d'assez interactif. Hein. Les gens arrivent avec leurs rêves et j'en sais pas tant plus, on lui fait confiance.
Mmh. Mais ce sera avec des places limitées, donc premier arrivé, première servie. Mmh.
Quel suspense. D'ailleurs, j'en profite, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire ?
Eh bien, il y a une billetterie, pas encore pour les ateliers, mais ça ne saurait tarder. Oui, c'est d'ailleurs l'occasion de dire que le festival est à prix libre. Donc, si pour les personnes qui n'ont pas d'argent à mettre dans l'entrée, c'est possible d'y aller sans argent. Pour les personnes qui ont envie de nous soutenir, c'est totalement possible de le faire via la billetterie qui est donc en bio de notre compte Instagram, en sachant que cette année, tous les bénéfices qu'on fait en tant qu'organisation seront reversés à des cagnottes de soutien aux populations palestiniennes et congolaises, ainsi qu'au collectif des jeunes du parc de Belleville. Donc, voilà. C'est de l'argent qui ira à des causes importantes.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que vous définissez votre festival comme féministe et queer, mais aussi plus largement militant. En quoi c'est important pour vous l'union des luttes ?
Et alors, l'union des luttes, c'est important pour nous. Alors, en quoi c'est important pour le festival ? Je pense que la raison pour laquelle on a accolé l'appellation militante cette année, c'est qu'on s'est rendu compte au cours des deux premières éditions qu'on avait une audience un peu grandissante, donc une plateforme, et que dans ce contexte d'extrême droitisation et de fascisation des médias, mais comme du monde de l'édition, qui est celui dont on est le plus proche via Planchereuse, c'était important pour nous de profiter de cette plateforme pour diffuser des messages qui nous semblent importants, comme le soutien à l'édition libre indépendante, aux médias de cette façon-là aussi. Et du coup, notamment de parler de la situation au Congo, en Palestine, et des mineurs isolés du collectif des jeunes du parc de Belleville. Et en ça, donc on avait à cœur d'étendre un petit peu l'appellation féministe et queer qui pouvait être un peu réductrice, ou en tout cas pas être suffisamment explicite de notre soutien à ces causes-là, notre engagement pour ces causes-là.
Mais d'ailleurs, je pense que l'événement... il y aura une table ronde sur Débordé Bolloré, qui est du coup une initiative de stratégie contre l'Empire Bolloré, qui est vraiment dans tous les médiums possibles. Ça cristallise bien tous ces enjeux-là de convergence des luttes.
Tout à fait. Et dans les 30 secondes qui nous restent, parce qu'on arrive malheureusement à la fin de cet échange, est-ce que vous avez un petit mot pour nos auditrices ? Pour leur donner envie de venir, encore plus envie de venir.
On a hyper hâte, actuellement un petit peu fatigué, mais on a beaucoup de chance d'avoir des amis qui nous donnent plein d'énergie pour bien finir la préparation de l'organisation. Et on pense que ça va être quand même très joyeux et fort.
Et ce sera, oui, très joyeux, puisque donc il y aura aussi des tables rondes dont on a très rapidement parlé, mais une soirée avec des DJ sets et le Femstival qui va venir nous régaler.
Super, bah merci beaucoup de nous avoir présenté ce festival. Je rappelle que le festival Planche Heureuse se tient le 17 et 18 mai à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Merci beaucoup Ottilie et Ludine pour l'organisation de ce festival et d'avoir été avec nous ce soir. Et tout de suite, c'est la chronique de Delila.
Alors cette semaine, on ne peut rien vous cacher, cet événement est sur toutes les lèvres, c'est bien évidemment l'élection de Miss Andive 2025. Alors la compétition est rude pour élire la reine du chicon et... Oula pardon, ça c'est mes notes de chronique pour Radio Campus Amiens. Je voulais plutôt parler de l'élection du nouveau chef des chrétiens catholiques. Eh oui Thierry, c'est le fameux derby du Vatican qui va finir en apothéose ce soir, qui va l'emporter entre le FC Homophobie et le cercle sportif de l'Omerta sur les violences sexuelles dans l'église. Le suspense est insoutenable, l'ambiance est électrique. C'est la finale. Ils sont plus de 120 cardinaux, tous veulent marquer un but et entrer dans la légende comme le nouveau Pelé des dévots, et à la fin il n'en restera qu'un. Après le vote, le grand gagnant va choisir son authentique nom de vieux, Benoît, François, Jean-Paul ou encore Pi. Perso, il ne me reste qu'un grand-père, donc si on pouvait avoir un nouveau pape Pi, ça ferait peut-être palliatif. Du coup, ce genre de marché au pape, ça s'appelle le conclave, un festival de soutanes et de chapelets qui commence donc aujourd'hui et qui, selon un cardinal, durera 3 jours grand max. Alors j'imagine que comme dans tous les projets de groupe, il y a 2 cardinaux qui vont tout faire et le reste qui vont à peine toucher le PowerPoint d'annonce des résultats. Je me suis demandé pourquoi une date de fin aussi vague. Eh bien sachez que le conclave le plus long de l'histoire a duré 3 ans. Les habitants du coin étaient tellement saoulés qu'ils ont enfermé les cardinaux dans leur palais sans nourriture, et je me dis que peut-être on pourrait reproduire le concept avec l'Académie française. Je pense qu'en 3 ans, la moitié va claquer, ils arrêteront de nous emmerder avec leur dictionnaire à la con. On va voir s'ils sont si immortels que ça. Pour rappel, l'Académie française, c'est un ramassis de réactionnaires qui font mumuse avec leurs capes et leurs épées, et qui viennent à peine d'intégrer la féminisation des métiers dans le dico. Donc j'imagine que le mot décence devrait être couché sur papier d'ici 2677, histoire que le soufflet soit bien retombé. Bref, pour en revenir au vote, les cardinaux vont quand même élire le pape, hein, the top of the pope, si vous me le permettez, qui aura le devoir, s'il l'accepte, de maintenir l'unité de l'église, faire le tour du monde, rencontrer des chefs d'état et garantir les conditions du culte. Là, c'est pas habemus papam, c'est habemus alprazolam. Je trouve que c'est déjà difficile de garantir les conditions de vie de mon logement, alors préserver la foi en faisant des tours de papa mobile, bon... En plus, moi, j'ai même pas le permis, alors que si je l'avais, je suis sûr que moi aussi, j'y serais au conclave. Putain, les bâtards. Une fois que tout ce petit monde aura voté, hop, il y a 2 poêles qui brûlent. Alors évidemment, c'est des poêles garantis sans téflon et sans polluant éternel. Si c'est fumée noire, pas de pape. Fumée blanche, il y a un pape. Grâce au film Conclave, on sait désormais que c'est un intermittent du spectacle qui fume sa cigarette électronique dans le toit, qui a donc 2 vapes à sa disposition pour annoncer le résultat. D'ailleurs, les cardinaux eux-mêmes ont décidé de regarder le film Conclave pour savoir comment se passe un conclave. Conclave. L'église, c'est devenu super moderne, enfin moderne, sauf sur ce que les pontifs appellent communément dans l'église des abus, alors que bon, c'est pas grand chose quoi, c'est pédocriminalité, violence sexuelle sur hommes et femmes, emprise, manipulation, que ce soit par des prêtres ou par des cardinaux faisant partie des favoris. Après, qui peut les blâmer? Qui oserait leur jeter la pierre? Qui n'a jamais rêvé de ruiner la vie d'un gosse pour son plaisir personnel, hein? Non, personne? Bon, bah, peut-être que l'église sera le prochain projet d'enquête d'Aquabay pour faire du buzz à moindre frais. Épiscopalement vôtre.
Merci Delila pour cette chronique. Et c'est déjà la fin de la matinale. Un grand merci à nos invités, Vincent Gesser, chercheur au CNRS, directeur de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, Ottilie et Ludine, organisatrices du festival Planche Heureuse à Césure, Charlotte Reinhardt, pianiste, compositrice et productrice qui participe au festival jazz à Saint-Germain-des-Prés. Merci à toute l'équipe qui était à mes côtés ce soir, Héloïse à l'interview, Hugo au premier zoom, Delila à la chronique, sans oublier Nils à la réalisation, et bien sûr Alice et Maïwen à la coordination de notre chère matinale de 19h. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre confiance. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.